Bonjour à tous. On va donc commencer la séance de cet après-midi. Nous avons l'un des participants de cet après-midi, Jean-Pierre, qui est excusé parce qu'il est malade. Il ne pourra pas être là. Nous commençons en retard avec une demi-heure. Donc, nous avons 2 heures pour deux interventions. Et je propose de diviser le temps en un chiffre, moitié gagné, moitié perdu, en accordant 35 minutes aux intervenants pour parler. 25 minutes de la discussion, ça me paraît bien. Ça vous va? Je fais un partage égalitaire.
5,5.
25 et 25.
Oh, j'avais prévu une intervention de 30 minutes. Ce qui
De?
m'avait dit 30 minutes.
Oh oui, mais si vous voulez,
Ce
je
qui
n'utilisez pas,
m'avait
bien entendu.
compliqué comme délai.
Personne n'est obligé d'utiliser la
Voilà.
totalité de son temps. En général, c'est parce que la tendance. Non, 35 minutes et 25 minutes pour la discussion. C'est-à-dire, on a allongé le temps de parole des intervenants et on a allongé le temps disponible pour la traduction. Donc, je donne la parole à Olivier Orin, qui va nous parler de la valse des étiquettes. Quelques réflexions sur les manières de grouper et de différencier les sciences humaines et sociales dans la France des années 1944-1970.
Tout d'abord, bonjour. Je pense que vous avez déjà lu mon résumé. Disons qu'en gros, ça fait un certain nombre d'années que, à partir d'un questionnement sur les années 68, j'ai un peu progressivement élargi mes investigations à une histoire des sciences sociales françaises de l'après-guerre aux années 80, ce qui est un peu mon horizon un peu extravagant par sa taille d'études. Et ce que j'ai voulu vous présenter ici, c'est quelques résultats qui sont liés déjà au nom de cette maison, la Maison des sciences de l'homme, et le fait qu'on avait utilisé pour la désigner cet hyperonyme. La science de l'homme, lorsque la maison a été créée à l'issue de débats dans la deuxième moitié des années 50 et qu'elle s'est finalement appelée Maison des sciences de l'homme. Question qui était un sujet de perplexité pour moi parce que mes enquêtes du moment tendaient à montrer que science de l'homme, c'était pas du tout l'hyperonyme prévalent à l'époque. Alors, hyperonyme, peut-être un peu que je précise ce que j'entends par là. Un hyperonyme avec deux Y, c'est un terme que j'emprunte à Serge Roby, historien de l'ethnologie, qui lui-même avait emprunté à d'autres. C'est un terme qui sert à en grouper d'autres. C'est un terme d'englobation. Sciences humaines, sciences sociales, sciences de l'homme sont des hyperonymes, c'est-à-dire des étiquettes qui servent à en grouper d'autres. Or, il se trouve que quand on fait une histoire un peu transversale des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences de l'homme, etc., etc., des sciences morales, on est confronté à la question de la façon dont les gens groupent, classent, pensent, ou ne pensent pas d'ailleurs, ces ensembles. M'intéressant plus particulièrement à l'hyperonyme sciences sociales et cherchant à évaluer sa place par rapport aux autres, mes enquêtes préalables m'avaient plutôt montré autre chose que cela. Par ailleurs, j'ai lu Brigitte Mazon qui donne une explication à cela puisqu'elle dit en gros que ce choix de Maison des sciences de l'homme, c'est un choix qui est le résultat des tractations très complexes entre Pierre Renouvin d'un côté et Fernand Braudel de l'autre, Fernand Braudel étant plutôt porteur de l'hyperonyme sciences sociales, qui aurait suscité une fin de non-recevoir de la place de la part de Pierre Renouvin, qui jugeait que accepter cet hyperonyme-là, c'était faire droit à ce qu'il aurait perçu comme l'hégémonisme de Braudel, et que contre cela, il aurait opposé une alternative, et que finalement, l'accord s'était fait sur l'idée que ce serait une science de l'homme qui serait privilégiée. Ce que je vais essayer de vous présenter dans les 25 ou 30 minutes qui me restent, c'est un peu des cadrages généraux sur les usages de ces hyperonymes sur la période 44-81-82. Je m'arrêterai avec l'horizon qui est celui de Maurice Godelier, qui obtient en 82 un département des sciences humaines et sociales, SHS, qui est l'hyperonymie dans laquelle on est depuis et qu'on a tendance à pas questionner, parce qu'on va parler des chercheurs en SHS en 44 ou des chercheurs en SHS en 1918, alors que dans ces paysages-là, les SHS n'existaient pas. Et donc, je vais essayer un peu de vous dérouler un ensemble de cadrages avec une façon de procéder qui sera relativement simple, pour pas dire simpliste. C'est-à-dire que, et un peu dans la même perspective que Ludovic tout à l'heure, je vais plutôt aborder des choses un peu macro, top-down dans ma première partie, c'est-à-dire la façon dont les institutions cadrent, elles, ces choses, avant de m'intéresser dans une deuxième partie à la façon dont les individus, eux, les formulent. Dans une deuxième partie, c'est très artificiel, hein, parce que les institutions sont faites d'individus et que les individus sont à la fois des émanations et des constructeurs d'institutions. C'est juste un procédé de présentation de ma matière que je vais vous donner là. Par ailleurs, petite clause de style, c'est un work in progress. Je suis loin de considérer que j'ai fait le tour des questions dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça baillera partout, il manquera des éléments. Et puis, comme par ailleurs, j'ai pas eu le temps d'écrire rigoureusement mon texte, ça sera d'improvision. Il se peut que par moment je cafouille un peu dans les éléments que je vous présente, ou qu'il y ait une date ou une autre qui ne me reviennent pas, parce que comme j'ai pas un plan devant moi pour me rappeler toutes les dates, en général, je ne les ai bien en tête que quand je les ai devant moi et que je peux les écrire directement. Alors, donc, en 63, est instituée une maison des sciences de l'homme qui, en gros, est instituée un peu à un moment qui est un moment de charnière dans la façon dont les institutions françaises, que ce soit les institutions les plus larges, les plus englobantes, que pourraient être les ministères ou des institutions qui émanent de l'État, comme le CNRS ou autre, toute une période dans laquelle, pour la France, pour grouper ces disciplines qui n'en sont pas forcément toutes, l'hyperonyme qui a été totalement dominant et qui, en quelque sorte, c'est véritablement imposé à partir de cette période, est sciences humaines. Le terme que vous retrouvez un peu partout et qui sert à penser et à grouper ces ensembles, c'est pas sciences sociales, c'est pas sciences de l'homme, c'est sciences humaines. En gros, cette histoire, ça se redit notamment dans un article que la Revue d'histoire des sciences humaines a publié, l'a bien montré. En gros, dans le partage du CNRS à partir de 1939, pour englober tout ça, il y a quelque chose comme une forme d'institutionnalisation de la catégorie sciences humaines qui va avoir une grande stabilité, en gros, on va dire, en sautant par-dessus. Alors, la période de Vichy, ça serait encore autre chose, et je ne me sens pas forcément très, très à l'aise pour en dire des mots, mais en gros, tout ça est groupé au niveau du CNRS, mais pas seulement du CNRS, sous le label sciences humaines de 38-39 à... au mi-temps des années 60, voire même, d'une certaine manière, on pourrait aller jusqu'en 81-82, parce que les choses... Alors, Ça peut paraître un peu simplet et naïf dit comme ça, mais ça veut dire que c'est dans ce cadrage-là et dans un cadrage en apparence relativement unitaire que les principales institutions qui pilotent la recherche en sciences donc humaines pour l'époque vont imaginer développer des politiques de développement de financement, des politiques de développement de nouvelles unités, et on ne parle pas du tout spécifiquement dans les politiques globales d'autre chose que de sciences humaines sur toute cette période. Lorsque en 1958-1960, le pouvoir gaulliste vient remanier beaucoup les institutions de pilotage de la recherche en France, notamment la réforme du CNRS de 1959, mais aussi ensuite la création de tout ce dispositif avec le comité des sages, avec la nouvelle formule de financement et avec la création de la DGRST, un dispositif qui en gros est construit entre 58 et 60-61, continue lui aussi à utiliser de manière très prédominante l'hyperonyme sciences humaines dans ces découpages, puisque non pas tellement dans les programmes de recherche qui ont été développés à l'époque, mais dans la façon de classer les gens qu'on pouvait regrouper pour composer les différents comités à l'époque, dans les principes qui sont formulés dans les textes de création de ces nouvelles institutions du pouvoir gaulliste, le terme qui continue encore à être privilégié, c'est celui de sciences humaines. Pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que ça a une importance pour moi? C'est pour dire que pendant assez longtemps, au niveau des institutions qui pilotent, qui mènent une politique de recherche en France, c'est cette catégorie-là qui est la catégorie prédominante. Et on pourrait, à partir de là, s'imaginer que les acteurs qui ont à défendre des financements, qui ont à défendre des projets dans ce cadrage étatique, vont à leur tour endosser cette formule. De fait, il est vrai que même dans des textes, des articles d'auteurs très divers, qui peuvent être des promoteurs d'autres formules à l'époque, y compris Braudel, vous allez voir utiliser ce terme de sciences humaines, notamment quand ils ont à faire valoir des intérêts stratégiques. Et quand Fernand Braudel ventriloque Henri Longchambon dans son article, qui a un rapport sur les sciences humaines qui lui a été commandé par Longchambon en 1956 et qui donne lieu à plusieurs publications, mais notamment une publication dans les annales en 58, qui s'intitule Les sciences sociales en France, un bilan en programme, qui est signé Henri Longchambon, mais qui est en fait écrit par Fernand Braudel. Il y a une espèce de jeu où les étiquettes coulissent les unes par rapport aux autres, mais où il y a quand même une forme de centralité encore de l'expression, puisqu'elle est celle dans laquelle les gens parlent quand ils ont à parler de cet ensemble de sciences, de leurs problèmes, de leurs promesses, et de ce que pourraient être les promesses de leur développement futur. Et en fait, c'est par la bande que du jeu s'est par la suite installé, à savoir que quand le CNRS s'est rénové et transformé par le pouvoir gaulliste dans ces années 59-61, directeur de l'époque, ayant affaire à un ensemble de sections qui devient de plus en plus impossible à gérer pour un directeur des sciences humaines au CNRS, c'est adjoint un adjoint, en découpant les choses dans la pratique et dans la gestion des sections du CNRS, et par un premier découpage à l'intérieur de cette division des sciences humaines, entre un secteur qui va être géré par un directeur adjoint et un autre secteur qui va être dirigé par un autre directeur adjoint. Évidemment un trou quand j'ai besoin de retrouver leur nom, ce sera d'un côté le géographe Pierre Mombec, qui aura la responsabilité d'un ensemble de sections comme la géographie, je ne sais plus de tête. Et cette division de la section des sciences sociales en deux, avec, je crois que c'est Pierre Baugé qui s'appelait l'autre directeur adjoint, va devenir, à la réforme suivante dans les années 70, une réforme où clairement on aura un directeur des sciences sociales et un directeur des sciences humaines, et où le directeur des sciences sociales aura dans son portefeuille l'ensemble de ce qu'on appelle de plus en plus au CNRS les sciences sociales, et qui sont en gros ce que déjà Braudel appelait en 58 des jeunes sciences, des sciences d'avenir, et où son alter ego lui aura à gérer l'histoire, la géographie, les sections, on va dire, classiques, traditionnelles, la philosophie, et qu'on va avoir véritablement à l'intérieur du CNRS, dans la gestion, mais c'est une gestion simplement interne, une séparation entre sciences humaines et sciences sociales, mais qui n'est pas complètement officialisée, puisque dans les organigrammes des années 70, on a encore cette unité fondamentale de la section. Le cadrage, en fait, c'est plus dans les pratiques, donc, qu'il a progressivement cessé d'être unitaire dans la période, et non pas parce que la façon dont les sciences étaient classées au niveau du CNRS ou autre, de manière plus feuilletée. Je ne sais pas si ce que je viens de dire à l'instant était très clair. Mais la façon de penser et classer reste au niveau des grands organismes qui gèrent la politique scientifique de l'État, une politique en apparence unitaire. Maintenant, si on fait droit à d'autres institutions, si on fait droit à d'autres acteurs des politiques de la recherche, on aperçoit un autre paysage et une autre façon de penser les choses. C'est quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure dans une intervention que j'ai faite depuis la salle, c'est que en fait on a un paysage qui est un paysage qui est pas marqué par un acteur unique qui manipulerait tout, qui serait l'État français. Enfin, l'État français, la formule n'est pas très heureuse en 44. La République française, ça ira mieux, mais avec la présence d'un certain nombre d'autres acteurs qui sont des acteurs qui sont grata dans le paysage de la recherche française dans les décennies d'après-guerre. Ces acteurs, vous les connaissez aussi bien que moi, ce sont notamment, il y en aurait d'autres qu'il faudrait citer, la Fondation Rockefeller et l'UNESCO, deux institutions qui ne sont pas du tout compatibles, pas du tout comparables en termes de périmètre et de format à la République française ou à ses institutions de recherche de plein exercice, mais qui sont des interlocuteurs et des acteurs qui parlent avec les instances de la politique scientifique française. Or, et c'est là que je voudrais introduire quelque chose qui me semble très important, si je suis totalement d'accord avec l'idée qu'il faut penser les choses en termes d'interaction et de couple entre ces interlocuteurs inspirés par des politiques américaines et la France, en même temps, ces interlocuteurs arrivent avec un découpage qui n'est pas du tout le même que celui qui existe en France, déjà parce que dans ces années-là, 44-45, sciences humaines, c'est un découpage qui ne veut rien dire en anglais. Human sciences, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde américain, qui est couplé entre un monde des humanities et un monde des social sciences. Alors qui est évidemment pas forcément très très stable, mais qui a quand même lui aussi ses systèmes d'hyperonymie, c'est-à-dire que dans les conseils américains, dans le Humanities Council, il n'y a pas les mêmes personnes que dans le Social Sciences Council, et c'est pas c'est une forme de découpage du champ académique qui est pas le même. Et quand on regarde les tractations qui ont pu avoir lieu aussi bien à l'UNESCO que dans l'élaboration progressive de ce qui allait devenir la sixième section de l'école pratique excusez-moi, je suis fatigué là, l'école pratique des hautes études, sixième section de sciences économiques et sociales, et qu'on regarde tout ce qui a été de l'ordre des tractations entre les différents acteurs, on voit bien que la mise en valeur de sciences sociales ou de sciences économiques et sociales, ça correspond aussi, pour bonne part, à des incompréhensions et à des désajustements dans la façon de concevoir le partage de la science en grand continent. Et d'une certaine manière, je pense que la création d'une sixième section de sciences économiques et sociales peut très bien se voir comme une forme de compromis négocié entre une façon de voir les choses qui peut être celle des acteurs américains, qui peut aussi renvoyer à des intérêts qui sont celles des acteurs français. J'y reviendrai dans ma deuxième partie, si j'ai le temps de la faire, mais il y a des acteurs français, et je pense Fernand Braudel en particulier, qui ont des intérêts à faire prévaloir une force des sciences sociales françaises de leur côté. Là où, par exemple, je pense qu'un Charles Morazet, dans ces années-là, et j'en veux pour preuve toute une série de textes qu'il a fait, et ce qui était sa chaire à la quatrième section de l'EPHE, pouvait être plus quelqu'un qui était au départ sur l'idée d'un développement des sciences économiques. Et on a affaire à quelque chose comme une sorte d'agencement d'intérêts divers et variés qui trouve une forme de compromis dans un intitulé qui sera finalement celui de sciences économiques et sociales. Par ailleurs, on retrouve la même façon de configurer les choses à l'UNESCO. Il y a pu y avoir aussi pas mal de malentendus et de compromis sur la façon dont il fallait définir la section de sciences sociales de l'UNESCO. Et on sait qu'il y a eu pas mal de négociations et de crispations, notamment avec Lucien Febvre, qui est, à cette période de sa vie, un défenseur d'une science de l'homme totale, et qui a une forme de vision à la fois très, très unitaire et très œcuménique, qui prend à ce moment-là de sa vie, parce que le Febvre de 1947, 1950 et jusqu'à sa mort, ce n'est pas le Febvre de l'immédiate avant-deuxième guerre mondiale, ou le Febvre de 1922 de la Terre et l'évolution humaine, il a évolué. Et dans ce que je lis dans ces textes, le syntagme sciences sociales, par exemple, était beaucoup plus prégnant dans la Terre et l'évolution humaine qu'il ne l'est dans ses interventions de l'après 44-45, où il y a ces prises de parti enflammées sur une science de l'homme. Mais il me semble qu'on est là encore dans une forme de compromis qui a été très longuement et très savamment négocié entre quelque chose qui était de l'ordre d'une forme d'idiosyncrasie française à faire valoir des sciences humaines ou des sciences de l'homme, et un monde anglophone dans lequel ces human sciences ne voulaient rien dire, où les humanities ne correspondaient pas. Si vous voulez, il y a quelque chose comme une incommensurabilité au sens où Thomas Kuhn l'a thématisé, entre les systèmes de classification qui sont ceux du monde anglophone et ceux qui sont ceux du monde francophone, qui a été négocié en quelque sorte avec une espèce de champ français dans lequel on a une forme de multifocalité, avec une politique des institutions françaises, le CNRS, plus tard la DGRST, qui est une politique qui parle de sciences humaines plutôt, même si elle a tendance en plus ensuite, au fur et à mesure de la massification des métiers de la recherche et de l'université, à prendre un tour bipartite, notamment dans les années 70, et un monde anglophone plus présent à la sixième section de l'EPHE ou à l'UNESCO, qui met davantage l'accent sur des partages et des groupements des sciences, qui est celui du monde anglophone, des sciences sociales versus les humanités traditionnelles. C'était une des premières choses que je voulais invoquer par rapport à l'étonnement qu'on peut voir par rapport au fait que cette maison des sciences s'est appelée maison des sciences de l'homme et ni maison des sciences humaines, ni maison des sciences sociales. Je tiens à dire que personnellement, je n'entrerai pas dans des hypothèses qui iraient au-delà de celles que Brigitte Mazon a proposées là-dessus, en termes de compromis. En revanche, dans le temps qui me reste, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de rentrer un peu plus dans les élaborations des individus et de plus me placer dans un niveau macro, mais plutôt dans un niveau à partir d'élaborations d'individus. Si les choses vous intéressent, j'ai déjà fait pour partie le travail dans mon mémoire d'habilitation, dans la partie inédite, où j'ai essayé de travailler sur le syntagme sciences sociales dans un corpus d'articles et pour essayer de voir qui l'avait utilisé, avec quel plan de découpage et avec quel contenu. J'ai commencé pour aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer, à faire le même travail sur sciences humaines et sur sciences de l'homme, histoire de voir qui les utilise et à partir de quand. Et mes résultats sont beaucoup plus stabilisés pour l'instant sur sciences sociales, sur sciences de l'homme et sciences humaines, où je n'ai pas totalement terminé, on ne dit pas totalement, ça va être encore quelques années, je pense, de travail, à faire le point sur ces enjeux. Alors, les personnes qui mobilisent ces différentes expressions sont à la fois les mêmes et pas les mêmes. En quoi je peux dire qu'elles sont à la fois les mêmes? Au sens que l'un des résultats auxquels je suis arrivé déjà en travaillant sur sciences sociales, mais que je retrouve encore, c'est que les acteurs de l'époque utilisent encore très largement les expressions en question comme des quasi-synonymes. Et très souvent, c'est aussi lié à un phénomène très bête dans la langue française, qui est que la langue française déteste la multiplication des répétitions, et que même chez les acteurs les plus rigoureux et les plus soucieux d'essayer d'avoir un plan de contenu stable et bien différencié, en l'occurrence, Fernand Braudel a eu ce genre de soucis, mais de très nombreux auteurs, eux, vont utiliser ces différentes expressions, sciences morales, sciences sociales, sciences de l'homme, sciences humaines, comme des quasi-synonymes, sans forcément dire que ce sont des synonymes, mais en les utilisant les uns après les autres, et en gros pour dire à peu près les mêmes choses sur le même tableau. Ça tient d'enjeux qui sont soit des enjeux totalement implicites chez tel ou tel auteur, soit des enjeux qui sont beaucoup plus explicites, notamment chez un auteur comme Morazé, qui, dans très nombreuses interventions, va précisément placer le fait que pour lui, tout ça sont des divisions de l'esprit et pas des divisions dans les faits et dans la pratique des hommes, et qui va les balayer. Et c'est vrai que c'est l'auteur chez lequel on va trouver un texte qui parle de sciences morales, un autre de sciences sociales, etc. Ça tient aussi, je pense aussi, à ce qu'a été sa trajectoire, étant donné que Charles Morazé, c'est quelqu'un que je lis actuellement comme quelqu'un dont la principale activité, le principal moteur était de créer du nouveau et de créer de nouvelles institutions, et dont la carrière avant guerre, pendant guerre et surtout à partir de 1944, c'est une succession de pas chassés dans laquelle il est à l'initiative dans toutes sortes d'institutions, à la Fondation nationale des sciences politiques, à la sixième section, il est l'un des deux, trois inventeurs de la sixième section de l'EPHE. Mais ensuite, on va le retrouver dans toutes sortes d'autres institutions. Il va avoir 36 vies, il va aller aussi, il va voyager, etc. Et l'impression que j'ai en le suivant, en lisant sa biographie, mais aussi sa production, c'est qu'en gros, ça l'intéresse beaucoup moins une fois que les choses sont figées. Et une fois que les choses, il faut les faire tourner de manière durable. Ça tient aussi à une chose que Serge Benest a bien montré dans sa thèse, dont moi j'avais l'intuition en lisant les mémoires de Morazé et deux ou trois choses, qui est que je pense que les relations avec Braudel devaient être assez exécrables et des dimensions de rivalité. Alors à certaines époques de leur vie, je pense que dans la période 48, dans la période 48-55, leurs relations sont à mon avis très difficiles. Ils se sont un peu rabibochés à telle enseigne qu'en 64, c'est Morazé qui essaie de raviver. Notamment dans des interventions publiques, dont une a été transcrite dans la Revue française de sociologie, un projet de faculté des sciences sociales. Mais leur relation, à mon avis, a été compliquée. Il y a eu des moments, il y a des mots assez amers de me raser sur le fait qu'il n'a pas été l'élève choisi pour entrer au Collège de France. Il y a toutes sortes de petites piques. Je pourrais vous faire l'analyse du livre. On peut dire aussi que c'est rétrospectif et que c'est quelque chose qu'il écrit quand il est octogénaire et que ça peut être une relecture du passé. Mais c'est bon, je ne voulais pas faire une digression qui, en plus, n'est pas du tout bonne pour l'intelligence générale de mon propos. Mais en gros, ce que je veux retenir, d'une part, c'est que donc ces différents hyperonymes sont beaucoup utilisés un peu en substitution les uns des autres. Et il y a énormément de textes qui ne font pas du tout le départ entre les uns et les autres. Et d'une manière générale, et ça, c'est un autre enseignement du travail que j'ai fait, ce ne sont pas des termes, peut-être parce que ce sont des hyperonymes, dont les gens donnent une définition. Dans un corpus de 50 articles qui ont sciences sociales dans leur titre, publiés entre 1944 et 1982, il n'y en a pas un seul qui définit les sciences sociales. Sans doute parce que, pour les acteurs de l'époque, il y a une forme d'évidence. Les sciences sociales, ce sont ces sciences qui s'intéressent aux hommes en société, et aucun auteur de toute la période dans mon corpus ne juge bon de devoir dire à un certain moment, voilà, mais c'est quoi des sciences du social, c'est quoi le social? Il y a quelque chose qui semble acquis, dans lequel il n'y a pas vraiment besoin de se poser la question. Ce qu'on va beaucoup plus trouver, en revanche, dans environ 30 à 40% de ces productions, c'est, en revanche, un travail de contenu, c'est-à-dire qu'on va donner des listes de ce qu'on considère comme étant des sciences humaines, ou des sciences sociales ou des sciences de l'homme. C'est-à-dire que, justement, c'est la fonction hyperonymique qui, chez les auteurs, demande à un certain moment d'être précisée et d'être clarifiée sous diverses modalités. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, notamment Braudel, parlant au nom de Longchambon, va désigner d'emblée ce que sont les sciences humaines traditionnelles et les sciences sociales traditionnelles. Dans son article tiré de son rapport publié en 1958 dans les Annales, il va donner les listes et il va faire le départ. Mais ça peut être aussi Friedman, la même année, qui fait un article sur la sociologie du travail et les sciences sociales, dans lequel la typologie, le plan même de l'article en deux parties, va consister à faire un inventaire de ce qu'est la sociologie du travail telle qu'elle est faite par la technologie ou par l'histoire ou par la géographie. Et donc, il fait une sorte de liste. Et cette liste forme justement un ensemble englobant. En revanche, ce qui me semble assez évident, c'est que, et contrairement à une idée qu'on pourrait se faire, il n'y a pas véritablement accompagné cela ce qu'on pourrait rétrojeter dedans, qui serait l'idée qu'il y aura un effort de réflexivité très intense qui serait fait pour essayer de penser ces choses-là. Il ne faut pas imaginer des articles dont le style, la plupart du temps, est de revenir sur ces problèmes de catégorie, sur ces problèmes de sens du travail. On est dans une époque où il y a une très forte sollicitation et une très forte demande de production de données objectives, surtout après l'accélération qui a lieu à partir de l'époque de Mendès-France et surtout sur le pouvoir gaulliste, où on attend de plus en plus des sciences humaines et surtout des sciences sociales qu'elles viennent en quelque sorte sans une forme de technologie venant accompagner l'explosion économique qui de plus en plus est en train de se manifester. C'est toute cette vision des sciences sociales comme des technologies visant à adapter la société française au développement, au boom économique de ce qu'on n'appelait pas encore les Trente Glorieuses. Cet effort de réflexivité, s'il a lieu, et si on le trouve, c'est plutôt en fin de période, dans les années 70, où pour le coup, on voit effectivement dans la fin de la période que j'étudiais, en gros entre 74, 75 et le milieu des années 80, un ensemble de bilans sur les sciences sociales qui sont faits par un certain nombre d'acteurs qui sont en même temps les marqueurs du début de ce qu'on pourrait appeler une histoire professionnelle des sciences sociales. C'est des textes de Victor Caradis, de Michel Pollack, de Catherine Rhein sur l'histoire de la géographie en 82. Sur la fin de la période, les gens qui parlent de sciences sociales au pluriel, ce sont essentiellement des gens qui sont en train de se spécialiser comme des historiens qui de la sociologie, qui de la géographie, qui de l'histoire. dans le cadre de celui qui a été la principale voix d'une histoire de l'histoire à l'EHESS, justement.
L'histoire de quoi, des sciences humaines?
L'histoire de l'histoire.
Revel, voilà. Revel. Maintenant, en termes de découpage et d'affiliation, elle est très typée, c'est-à-dire que les gens qui parlent de sciences sociales sont en gros des gens qui ont un point de vue d'insider, c'est-à-dire que ce sont des gens qui relèvent de disciplines dont ils disent par ailleurs dans le texte qu'ils participent des sciences sociales. Avec cette particularité que avant, en gros, le milieu des années 50, il y a très très peu de textes sur les sciences sociales, que le take-off, il a lieu au milieu des années 50 et que les acteurs, très clairement, du développement d'un discours sur les sciences sociales, ce sont des membres du groupe des Annales. C'est Rodel, c'est Morazé, c'est Friedman. Ce sont ces gens-là qui sont les premiers à produire des choses sur les sciences sociales dans cette période-là. Alors, ce n'est pas non plus un hasard. C'est le moment des négociations. C'est le moment où Brodel a essayé de vendre son projet d'une faculté des sciences sociales et que ça s'est heurté, à des difficultés considérables. Je développe pas ça. Ça a déjà été écrit de nombreuses fois, notamment par Brigitte Mazon et par d'autres ensuite. Et ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que très rapidement, la corporation qui va le plus prendre en charge cette étiquette, ça va être après ça les sociologues. Et il y a toute une forme de hiérarchie. J'ai un tableau dans mon mémoire. J'ai pas eu le temps non plus de vous faire un PowerPoint qui montre que on a tout en haut les sociologues, c'est à peu près 45-50% des usages sur la période 44-82 de l'expression sciences sociales dans les titres d'articles. Ensuite, vous avez les historiens et très nettement en dessous, vous avez les autres catégories. Alors, c'est compliqué quand on parle des politistes ou des politologues parce que dans mon corpus, la science politique, elle n'existe pas avant les années 70, en quelque sorte en France. Alors, bien sûr, il y a la FNSP où on produit des recherches de sciences politiques, alors faut-il dire au singulier ou au pluriel, mais c'est aussi qu'il y a pas mal, que les revues françaises de l'époque, qui sont très très peu nombreuses en 44, mais qui n'arrêtent pas d'aller en augmentant leur nombre jusque dans les années 60, invitent des spécialistes étrangers, notamment quand il s'agit tactiquement d'inviter des Canadiens ou autres à parler de ce que c'est que les sciences sociales au Canada, et où on va faire venir un politologue canadien. Qui pourra parler de ce que sont. Oui. Je conclurai en disant que, voilà, il y aurait des tas d'autres choses à dire. Science de l'homme, ce n'est pas du tout les mêmes gens qui l'utilisent. Science de l'homme, ce sont des théologiens qui parlent des sciences de l'homme ou l'homme à H majuscule. Ce sont des mathématiciens et des spécialistes des sciences de la nature. Il joue sur la dichotomie science de la nature, science de l'homme, sur cette période. Et ce sont aussi des philosophes qui ont gardé dans l'usage de cette expression l'idée qu'ils pouvaient garder une forme de magistère, être surplomb sur des sciences de l'homme. Et donc, il y a une ventilation des prises de parole qui n'est pas du tout la même. Et sur sciences humaines, c'est pareil, on voit encore d'autres catégories. Il y a notamment énormément de géographes qui ont publié sur la période 44-82 des textes parlant des sciences humaines, mais aussi des mathématiciens qui ont fait des statistiques au service des sciences humaines. Et on voit que, et je ne fais que l'ébaucher, je dirais c'est l'une des choses que je vais essayer de développer dans les mois et les années qui viennent, c'est de montrer comment ces différenciations sont pas anodines et qu'elles renvoient à des différences d'idéation de soi dans des totalités plus larges.
Merci infiniment d'avoir respecté aussi pour tout ce que vous avez dit et aussi d'avoir respecté l'horaire. Je vais donc proposer de donner la parole à l'intervenante suivante, Johanna Pospa, qui va nous parler des projets enchevêtrés, les prémices de la MSH et les études sur les aires culturelles. Un problème qui m'a intéressé beaucoup par le passé.
Bon, on verra si mon intervention va susciter autant de passion et de controverse. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé de vous présenter un peu une réflexion autour de l'intersection entre ces deux sujets. Et je précise d'emblée, puisque pour assurer aussi un peu la transition, que j'utilise la catégorie interculturelle avec des guillemets. J'aimerais qu'on n'entre pas trop dans ce vaste débat, ou alors il faut dire ère dite culturelle, donc je ne vais pas faire cet effort sémantique à chaque fois. Mais sachez qu'il y a une déconstruction possible derrière. Bon. Dans la biographie qu'elle a destinée à Fernand Braudel, Giuliana Gemelli choisit d'ouvrir le chapitre consacré à la MSH par une sous-partie sur les aires culturelles. Le lecteur peut se demander pourquoi cette partie n'a pas trouvé sa place, plutôt à la fin du chapitre précédent de l'ouvrage, consacré quant à lui à la sixième section de l'école des études. Institution au sein de laquelle une division des aires culturelles, placée sous la responsabilité de Clemens Heller, est progressivement mise en place à partir de 1955, grâce à des recrutements sur des postes permanents et pérennes, grâce aussi au lancement de nouveaux cours, à l'ébauche des centres de documentation et d'études, ou encore à des programmes individuels et collectifs de recherche. En outre, le chapitre sur la sixième section s'achève sur une note, insistant sur la nécessité de ne pas isoler le projet des aires culturelles de ce que Gemelli désigne comme l'architecture brodélienne et de ses effets sur l'espace académique français. À l'avenir, l'articulation entre l'ANSH et les études sur les aires culturelles s'impose, il me semble, donc d'emblée, comme une évidence, tandis qu'un arbitrage à ce propos entre les deux institutions, MSH donc et sixième section, semble du moins implicitement statuer plutôt en faveur de la première. Cette entrée en la matière ne se veut pas anecdotique. Elle ne vise pas non plus à trancher en se mettant dans une position d'arbitre qui ne serait que prétentieuse de ma part, donc trancher des débats historiographiques et des jeux de remarcation, il me semble, d'une génération de travaux qui me précèdent. Si j'entrais l'amorce de mon intervention, c'est parce que cela peut conduire à réfléchir à la mobilisation d'outils analytiques pertinents et à la construction d'un objet ou de plusieurs objets de recherche, ainsi qu'à leur articulation, la MSH elle-même, dont l'étude est censée nous réunir aujourd'hui, et la question qui m'occupe de manière plus individuelle, plus personnelle, institutionnalisation académique des études sur les aires culturelles après la guerre. Je voudrais entre autres défendre ici l'idée que l'association entre cette institution et ce domaine d'études mériterait d'être réinterrogée, non pas pour être réfutée ou réitérée in fine, mais pour les gains de connaissances que cet exercice pourrait nous apporter. Cela nous permettrait de mieux saisir les spécificités du rôle dont la MSH est investie à l'intérieur de l'espace académique français et la manière dont elle se situe par rapport à différents acteurs institutionnels qui, eux, investissent en l'occurrence ce domaine d'études des aires culturelles. Ne pas tenir cette association comme allant de soi peut conduire aussi, il me semble, à se demander ce que la MSH fait à ce domaine d'études et inversement à ce que ce domaine d'études fait à la MSH. En tout cas, le fait que l'un des principaux artisans est dans les deux cas le même individu ne devrait pas suffire pour en déduire que cette articulation s'opère mécaniquement, par simple transposition d'une institution à une autre ou encore par pur changement d'échelle, censé entraîner l'agrandissement d'un empire brodélien sans par plan d'acteurs de l'époque. Il faudrait d'ailleurs élargir ce premier prisme, et on a commencé à le faire dès ce matin, strictement individuel ce prisme, en réfléchissant un minima en termes de guillemets, Braudel plus Heller, puisque tous les deux sont étroitement associés, aussi bien à la mise en œuvre de la division des aides culturelles qu'à tous les stades d'élaboration du projet de la MSH, puis de sa mise en œuvre. L'amorce de ces deux projets est en effet quasi simultanée, même si au-delà des temporalités parallèles, les rythmes de leur mise en œuvre seront différents en raison des blocages et des rebondissements successifs que connaîtra le projet de la MSH. Ces projets sont par ailleurs adossés à des dynamiques et à des visées scientifiques convergentes, notamment au regard de la société d'une approche pluri- ou interdisciplinaire. Les études sur les aires culturelles constituent un outil de terrain et un terrain idéal d'expérimentation en ce sens, certes avec des résultats effectifs nuancés, comme j'ai pu le montrer en travaillant notamment sur les curricula et les programmes de la sixième section. La stimulation de la collaboration entre spécialités et disciplines différentes constitue également une des caractéristiques souhaitées de la MSH. Je viens de citer une lettre de 1964 de Marcel Bataillon, vice-président de l'association de l'AMSH, administrateur du Collège de France, et lui-même hispaniste, au président du comité de décentralisation. Et j'ai choisi volontairement pour cela un document qui n'est pas destiné aux financeurs américains, mais français, puisque parfois ça a effectivement un sens de voir l'intentionnalité autant qu'on puisse en juger selon le, auprès de qui on plaide et quelles causes on défend. Dans un document certes plus tardif, daté de 73, mais qui présente l'avantage d'expliciter certains critères d'accueil des centres de recherche au sein de l'AMSH, il est également indiqué que, je cite, « la priorité a été donnée à ceux qui manifestaient un intérêt concret pour des recherches de caractère interdisciplinaire. Sur ce point, cependant, l'évolution contrainte du projet initial de Brodel et de Heller, consistant à vouloir créer, on le sait, une faculté de sciences sociales, mais qui devient institut national et enfin l'AMSH, signifie non seulement l'abandon de toute prétention d'une mission d'enseignement, mais aussi le risque d'un certain rétrécissement des possibilités d'une recomposition des sciences sociales à l'aide de cet instrument institutionnel. Enfin, on le sait aussi bien l'AMSH que des programmes français sur les aires culturelles, dont ceux de la sixième section, sont soutenus financièrement au milieu des années 50 par des fondations philanthropiques américaines, Rockefeller et Ford. Le fait de vouloir pencher à tout prix si la raison principale pour laquelle Brodel se rend aux États-Unis à l'automne 55 tiendrait plus au projet de créer une nouvelle faculté ou à celui d'obtenir simplement un financement pour lancer la division des aires culturelles me paraît un enjeu artificiellement formulé, ne serait-ce qu'au niveau factuel. Autant le cadre de la visite de Brodel, tel qu'il est fixé conjointement avec le financeur de celle-ci, la Fondation Rockefeller, est défini de manière univoque, car il s'agit bien de visiter les principaux programmes des Area Studies en place dans les universités américaines, autant la correspondance préparatoire avec la Fondation philanthropique et les comptes rendus des échanges sur place indiquent l'implication de ces projets. L'effet d'un soutien aux études sur les aires culturelles devrait aller bien au-delà de son but immédiat, écrit Heller, un des responsables de la Rockefeller Foundation en août 1955. Sous le couvert de ce programme, poursuit-il, se déroulerait une réforme des études des sciences sociales en général qui devrait aboutir à la transformation de la sixième section en l'équivalent de la London School of Economics ou à la création d'une faculté de sciences sociales. Notre projet vise à créer des cadres qui justifieront la création de ces nouvelles formes. Cependant, l'enchevêtrement de ces deux projets se heurte rapidement à la fois à la politique de la Fondation Ford et aux décisions qui en découlent, notamment le fait d'accorder un soutien financier uniquement au programme sur les aires culturelles à partir de 1955, à l'entrée dans le jeu de la Fondation Ford, avec laquelle commencent de longues négociations à propos du financement de ce que deviendra l'AMSH, ainsi qu'à la redéfinition contrainte du projet de la faculté de sciences sociales sous l'effet d'intérêts différents d'une pluralité d'acteurs académiques et administratifs, c'est pas français. Donc, l'enchevêtrement initial des deux projets doit par ailleurs composer avec la multiplication des acteurs qui, en se réclamant en partie d'un programme de recherche labellisé Area Studies, tel le CERI et la Fondation nationale de sciences politiques, ou en ignorant à l'époque ce label, des représentants de l'ANSO aspirent également à obtenir des financements des fondations philanthropiques américaines. Le CERI reçoit aussi un premier grant de la Fondation Ford en 1957, qui couvre deux grandes branches, c'est le terme utilisé dans l'application, la théorie politique internationale et les Area Studies. En revanche, les tentatives d'obtenir un financement pour développer la bibliothèque de l'ANSO n'aboutissent pas. Ce n'est pourtant pas Heller amené à commenter cette décision à l'attention de la Fondation Ford qui va en profiter pour disqualifier ce qui pourrait être un concurrent de la sixième section. Au contraire, il soutient à cette occasion que, je cite, « toute aide apportée à l'école de l'ANSO profitera bien sûr à nos propres efforts, car sa collection, et il pense ici à sa bibliothèque, doit être un outil de travail de base pour tout projet d'études plus à développer en France. » Ce sont en revanche des spécialistes États-Unis proches de la Fondation Ford qui déconseillent à la Fondation en 1956 de soutenir l'ANSO. Parmi eux, Philip Mosley, spécialiste américain d'études russes et soviétiques, très fin connaisseur de l'espace académique français et européen, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, et grand promoteur des Area Studies, dont les arguments témoignent de l'évolution décisive à ce moment de cette continuation d'accord. Alors qu'il reconnaît avoir considéré qu'un soutien apporté au l'ANSO pourrait être une opportunité voir la seule manière d'encourager et de renforcer les études aréales, et en particulier les études slaves, en France, Mosley constate qu'une alternative existe désormais, faisant référence explicite au projet porté par Brodel et à la sixième section, projet dont il avait d'ailleurs accompagné le lancement et dont il restera un très proche conseiller, il est d'ailleurs très proche de Heller, on pourrait revenir sur cette constellation d'Arthurani. Or, estime Mosley, la reconnaissance et le soutien de la Fondation Ford au Langso pourraient mettre en péril cet important projet. Il ne s'agit cependant pas ici simplement d'un arbitrage entre deux concurrents institutionnels, mais, il me semble, entre deux voies et deux manières distinctes de concevoir et de pratiquer les études sur les aires culturelles. Cela pourrait, pour Sylvie Mosley, renforcer des intérêts particuliers démodés au moment même où on est appelé à coopérer selon un nouveau modèle différent de celui qui était à la base de la demande initiale de Langso. Modèle qu'il définit comme une approche linguistique et philologique étroite en matière de formation et de recherche sur les aires étrangères. Les financements américains contribuent donc à rebattre les cartes parmi les acteurs qui aspirent contribuer au développement des études sur ces aires. Qui plus est, les négociations autour de la future MSH vont entériner des lignes de fracture à l'intérieur de cette configuration, certes après des tâtonnements. Dans la perspective de la création de la MSH et compte tenu de sa relevance pour les études sur les aires culturelles, la bibliothèque de Langso continue en effet d'être mentionnée dans un projet de fusion des différentes collections, notamment celle de la BDIC, de la FNSP ou encore de l'ancien Centre français d'études sinologiques de Pékin qui sont pour partie bloqués là-bas et que Heller essaie de faire repatrier. À ce propos, l'administrateur de Langso, Henri Massé, participe à différentes réunions, dont le déjeuner de janvier 1957, au cours duquel le principe de la création de l'Association de la Maison des Sciences de l'Homme, qui aboutira donc en mai 1957, est entériné, mais tout en voulant apparemment se retirer de cet accord, quoique pas publiquement non plus, selon un rapport interne de la Fondation Ford. Des sensibilités sinon des tendances contraires semblent alors traverser les Langso, constat qui nous rappelle, si besoin encore était, que les institutions ne sont pas des monolithes et qu'on ne devrait pas les réifier. Au final, les Langso n'intègrent pas le dispositif de documentation de la MSH qui est en train de s'ébaucher. L'Institut d'études islamiques de l'Université de Paris, dirigé depuis 1956 par Régis Lancher, professeur de littérature arabe du Moyen-Âge à la Sorbonne, directeur d'études à la quatrième section de l'école pratique, non plus, bien qu'il soit mentionné à plusieurs reprises comme un des centres destinés à être accueillis par la MSH. Même si le nom de cette nouvelle structure ne met plus en exergue les sciences sociales, elle va cependant inclure parmi les sciences de l'homme un segment précis des études sur les aires culturelles qui entend se départir des pures traditions philologiques. Ce faisant, la MSH reste fidèle aux orientations de la sixième section et ne contredit pas non plus celle de la Fondation nationale des sciences politiques, où les études sur les aires étrangères sont ancrées quant à elles dans le périmètre des relations internationales, de l'histoire des relations internationales, de l'histoire diplomatique, de l'étude de politique étrangère ou encore de politique comparée. Ces deux institutions précisément, aux côtés des facultés de lettres et de droit de l'Université de Paris et du Collège de France, sont représentées au sein de l'association de la MSH, puis dans le conseil de l'administration de la future FMSH. Si la dynamique qui sous-tend la création de la MSH permet de révéler cette sous-configuration d'acteurs investis dans l'étude des aires culturelles, qui sort donc renforcée par cette création, il me semble toutefois que l'on ferait une erreur d'interprétation si l'on estimait que les études sur les aires culturelles sont la force motrice de ce projet institutionnel. Les références y sont d'ailleurs assez rares dans les négociations avec la Fondation Ford. Elles ne sont pas complètement inexistantes, selon les interlocuteurs, une fois de plus, qui sollicite l'avis. Par exemple, Ballandier, Berck, Lévi-Strauss en parlent beaucoup plus facilement que d'autres. Et elles servent surtout à illustrer l'une des réussites en cours de la sixième section. La définition des objectifs de la future institution et la justification de ses raisons d'être ne mettent pas non plus en exergue les aires culturelles. À ce moment, les aires culturelles font partie des soubassements de la maison, mais ne sont pas inscrites, pour ainsi dire, sur son frontispice, au centre où elles ne sont ni sa fonction première, ni sa composante centrale, et encore moins unique. Elles participent en revanche à la solution de compromis trouvée par les différents acteurs institutionnels concernés par le projet de la MSH, et c'est peut-être là le point le plus important. Les intérêts concurrents, voire divergents de ces derniers, suffisamment puissants pour faire réfléchir, on l'a vu, on l'a dit, le projet initial de Claudel, peuvent certes favoriser une lecture de la création de l'AESH comme le résultat des conflits de juridiction entre ces acteurs. Je crois cependant que cette théorie analytique empruntée à la sociologie d'Abbott n'épuise pas la complexité d'une situation où, malgré des perspectives pour partie divergentes, ces acteurs entendent toutefois agir conjointement. L'AESH pourrait davantage être considéré comme un objet frontière, notion devenue certes un peu fourre-tout en sociologie des sciences, mais qui me paraît bien traduire, en l'occurrence, l'arrangement matériel et procédural trouvé et le dispositif de coordination entre des acteurs appartenant à des mondes scientifiques, voire à des mondes sociaux hétérogènes, et que la nouvelle institution entend justement réunir. Cette notion est pertinente aussi parce qu'elle renvoie à la matérialité des supports de l'action dans le monde scientifique et à des infrastructures capables d'articuler, du moins temporairement, ces acteurs. Or, c'est précisément autour de ce type d'enjeu que se construit en l'occurrence un compromis et un consensus à minima. Plus exactement, autour de la nécessité de davantage de moyens matériels pour la recherche, et notamment de moyens documentaires, et surtout autour du constat d'un déficit d'espace. Ce constat entraîne aussi un pari, à savoir qu'un groupement topologique, selon la formule de Brodel, remédiant à la dispersion physique des collectifs de recherche, dans une structure fédérative laissant une autonomie scientifique et administrative aux unités constitutives, entraînera des pratiques collaboratives et interdisciplinaires et, in fine, renforcera la recherche en SHS, pardon pour le contresens SHS, et la légitimité, y compris sociale, de celle-ci. La question du manque d'espace revient en effet de manière lancinante dans les échanges, les rapports d'étape, les avis recueillis par les représentants de la Fondation Rockefeller. On aurait tort de la balayer comme une question prosaïque. On a là un exemple qu'on peut documenter, montrant qu'une histoire et une sociologie des sciences ne peut se faire aux dépens de la prise en compte de ce type d'enjeu, et que les rivalités entre des individus socialement situés, dont on a heureusement pris l'habitude de tenir compte pour aller au-delà du monde éthéré des idées, désincarnés, sont aussi une histoire de territoire, là encore, non seulement au sens de juridiction sur un domaine de savoir, au sens d'abord, mais aussi au sens matériel. Cela est vrai a fortiori dans un état du champ scientifique tel que celui où l'AESH voit le jour et où on souhaite, voire on incite, à des pratiques de recherche collective opposées à l'érudition solitaire qui pourtant requiert elle aussi de l'espace pour entreposer des archives, des matériaux, des livres, etc. Des documents de l'AESH permettent ainsi de voir que hiérarchie et rapport de force peuvent aussi être banalement indexés sur le nombre de mètres carrés attribués à différentes institutions et centres de recherche. Ainsi, par exemple, en 1972, alors que les services propres à la FMSH occupent 32% de la surface disponible et le CNRS 33%, la 6e section dispose quant à elle de 29% pour un personnel de 120 individus et la FNSP de 2,9% pour 17 individus. Dès le début des années 60, alors que le bâtiment n'est pas encore construit, des demandes d'hébergement ou d'association des divers centres affluent vers l'AESH, leur multiplication et les traces bureaucratiques conservées dans ces archives risquent parfois d'entretenir la confusion entre les projets et la mise en œuvre effective. Dans ces différentes listes et projets, les centres dédiés aux aires culturelles sont d'anglais présents, qui plus est de manière constante. Cependant, un critère est explicitement indiqué pour décider de leur soutien, de leur hébergement et ou association. Il y a quand même du flou autour du statut. Seuls ceux dont les activités ont une dimension de documentation seraient retenus. La matérialité évoquée des enjeux de recherche renvoie en effet aussi à la question de la documentation et de l'information scientifique. Cette question est centrale pour l'AESH, au sein de laquelle ce qu'on va appeler le service bibliothèque documentation va occuper une place pivot sous la direction d'abord du PAM, Mademoiselle Lebel, et sous la responsabilité de Heller, aux côtés d'un service d'échange d'informations scientifiques dirigé par Mera, qui est en même temps directeur des services de documentation de la Fondation nationale de sciences politiques, et d'un centre de calcul dirigé par Jean-Claude Darvin. Et d'ailleurs, ces enjeux documentaires offre l'occasion d'un tout premier rapprochement entre Heller et la FNSP, en particulier MERA, dès 1949, autour d'un projet qui sera abandonné de collaboration pour lancer une expérience pilote visant à faire de la bibliothèque de la FNSP une sorte de plaque tournante, selon l'expression de Chassal, pour la recherche en sciences sociales. Donc, cette idée qui travaille beaucoup, entre autres, évidemment, MERA, mais Heller, qui est secrétaire d'un comité ad hoc constitué à ce but, va être donc poursuivi, n'abattant pas le conseil de la sixième section. Et la MSA, c'est vraiment l'occasion de révéler cette aspiration à mettre en place une véritable bibliothèque de sciences sociales. Parallèlement, ces enjeux sont tout à fait prioritaires aussi pour les études sur les aires culturelles et plus généralement les études sur des espaces étrangers, tels qu'ils se déclinent aussi bien à la sixième section de l'école pratique et à la FNSP. Je ne peux pas détailler ici, mais j'avais montré notamment dans un article la visée comparative entre ces deux institutions que la mission de documentation était intrinsèquement liée à la création de ces centres, voire la mission première de ces centres. Dès 1946, une note de François Goguel stipule par exemple que la Fondation nationale des sciences politiques, dont il est alors secrétaire général, devrait envisager la création de centres d'études spécialisés à cheval, dit-il, sur la documentation et la recherche, ajoutant que le modèle d'un tel centre existait déjà à l'École libre des sciences politiques et concernait un espace étranger justement. Il s'agissait du Centre d'études soviétiques, qu'il cite nommément, et qui avait été créé clandestinement en 1944. À la sixième section également, à partir du milieu des années 50, plusieurs aires servent de terrain d'application, voire de ressort, pour lancer le développement conjoint d'une politique de recherche et de documentation connectée à des programmes d'enseignement. Donc on a affaire à un triptyque. Ce sont précisément des centres paréaux qui appartiennent à ces deux institutions qui seront associés parmi les premiers à la MSH, mais selon des modalités qui sont tout d'abord assez ténues. Ces centres sont en effet présentés à partir de 62 et jusqu'en 66 comme des actions extérieures auxquelles la MSH apporte par contrat un concours financier contribuant à leur développement dans la perspective de l'intégration de leurs activités dans le cadre de la maison. Ils sont en outre étroitement liés au service bibliothèque documentation qui leur assure ses conseils techniques et coordonne leur activité. Les amorces des centres de documentation et d'études des aires culturelles des deux institutions indiquées vont bénéficier ainsi des infrastructures de la MSH et nourriront en retour les missions dont celles-ci se réclament. Concrètement, il s'agit tout d'abord, dès 1962, des centres de documentation sur la Russie, l'URSS et les pays slaves, sur la Chine contemporaine et sur l'Afrique noire de la sixième section. Les noms et les périmètres de ces centres pourront légèrement évoluer dans le temps, dirigés respectivement par Benny Zennerhout pour le premier, par le général Dumas pour le deuxième et par Madame Zahr, dont j'ignore le prénom, pour le dernier. S'y ajoute le centre de documentation méditerranéenne de la FNSP, dirigé par Jean Mera, censé réunir de la documentation sur des problèmes économiques, sociaux et politiques, ainsi que des fichiers bibliographiques sur les différents pays du bassin méditerranéen. Enfin, s'y ajoute le Centre de documentation d'ethnologie comparée de la 6e section et du Collège de France, associé au Laboratoire d'anthropologie sociale, dirigé par Lévi-Strauss. C'est un centre qui a davantage, il me semble, une inscription qui se cristallise autour de la discipline plutôt que de l'air. C'est le centre qui hébergeait le seul exemplaire européen de Human Relations Area Files reçu de l'Université de Yale en 1962 et qu'il va continuer à mettre à jour. Tous ces centres ne sont pas encore physiquement hébergés par la MSH, ne serait-ce que dans les espaces provisoires qu'elle met en place, puisque c'est assez confus. Cette maison existe, elle n'existe pas encore d'un point de vue matériel. De manière notable, le CRI rejoint cet ensemble en 68, une petite surface lui est attribuée en indiquant que son installation est partielle. Mais le centre est créé dans une catégorie à part, c'est la même ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure. Non pas dans la catégorie que l'on désigne désormais sous le label de centre de documentation d'air culturel, et j'insiste sur le mot documentation, catégorie qui apparaît à ce moment-là dans le rapport d'activité de l'ANSH, mais dans une catégorie disciplinaire, sciences politiques. Enfin, le centre d'études ambiennes de la sixième section s'y installe aussi en 70, tandis que le Centre de documentation et de recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde ancien indien y est associé, mais pas encore installé en 72. La qualification des centres continue alors de s'affiner. On parle désormais fréquemment d'aires culturelles extra-européennes, en y incluant aussi, je le remarque au passage un peu amusé, l'Europe, dites aussi l'Europe de l'Est. À quoi consistent concrètement les activités de documentation de ces centres qui entrent donc dans le périmètre de l'ANSH et qui s'enclenchent ces activités dans leurs institutions pour ainsi dire d'origine? Il s'agit à la fois d'un travail d'acquisition d'ouvrages et de périodiques par achat, par microfilmage, on pourrait revenir sur tous ces enjeux, pour les collections de leurs bibliothèques respectives, d'activités aussi de catalogage, d'élaboration de fichiers bibliographiques et des systèmes de classification, de dépouillement bibliographique et de rédaction de fiches de lecture. Ces activités entraînent un premier niveau d'internationalisation à travers des collaborations avec des centres étrangers. Par exemple, le Cardon entame une coopération avec le Center of African Studies de l'Université de Cambridge, avec des bibliothèques étrangères aussi en vue d'acquisition d'ouvrages ou d'échange d'ouvrages, d'acquisition donc par l'échange, a fortiori dans le cadre difficile d'accès, notamment l'Union soviétique et d'autres pays de l'Est, ou encore la Chine, où des contacts sont noués notamment avec leur bibliothèque nationale. Et toujours prioritairement, il me semble, à propos de ces aires, difficiles d'accès, pour des raisons évidentes politiques, à travers une coopération constante avec des bibliothèques états-uniennes. Les programmes de recherche cofinancés par l'ANSA sont en revanche encore un nombre très réduit. Au début des années 60, seuls deux concernent les aires culturelles, plus précisément l'aire africaine et des membres de la sixième section, premier en développement psychopathologie africaine, en second sur les structures agraires africaines et la préparation d'un atlas des territoires africains. Le programme de recherche sur l'aire est-européenne, inclus dans les activités de l'ANSH, sont eux aussi impulsés à la sixième section et cofinancés également par le CNRS, un acteur qu'il ne faudrait pas oublier dans cette histoire, à travers deux RCP obtenus à la toute fin des années 60. Il concerne toujours des enjeux de documentation. C'est surtout le cas de la RCP sur l'analyse et la publication des archives de l'Empire ottoman dirigée par Benizem à partir de 68, mais aussi de celle de Haupt à partir de 69 sur l'histoire sociale des Balkans et plus généralement sur les projets autour des mouvements socialistes européens. Les recherches aussi déployées au Centre Chine sont très embryonnaires et toujours adossées à des questions de documentation, autour notamment de la constitution de fonds spéciaux portant sur l'histoire du Parti communiste chinois, les rapports entre la Chine et l'Occident, le droit chinois, ou encore sur la paysannerie chinoise entre les deux guerres mondiales. Recoupant pour partie ces points d'intérêt, des micro-sous-groupes vont aussi continuer à se structurer, mais il me semble que c'est plutôt à partir des années 60, du milieu des années 70 à l'intérieur du Centre Chinois. Pour qui découvre les archives de l'ANSH sans connaître d'autres fonds d'archives institutionnels, et notamment ceux de la sixième section, la tentation ou les biais d'une lecture que l'on pourrait qualifier d'annexionniste me semble grande. En oubliant un peu vite les mentions indiquant qu'il s'agit bien de centres associés à l'ANSH ou hébergés par elle, on peut facilement avoir l'impression que ces activités relèvent uniquement de l'ANSH. Ce serait néanmoins faire fausse route aussi, il me semble, si on se lançait dans des arbitrages voulant attribuer telle activité à telle institution au lieu de tenir justement compte des superpositions et des intersections que la maison, que la MSH rend justement possible, ce qui est alors, il me semble, l'inédit dans le paysage académique français. Des ambitions allant dans la direction d'une intégration renforcée des études sur les aires culturelles seront affirmées surtout à partir du milieu des années 70, sans que cela dépasse néanmoins le stade, je trouve, de projet au niveau des concrétisations institutionnelles. L'idée et même des consignes reçues de la part du ministère de l'Éducation nationale consistent ainsi à vouloir créer, je cite, pour chacune des aires culturelles et pour les problèmes majeurs qui se posent sur le plan des relations internationales, on sent là le découplage plutôt sixième section, IOP, Institut de Fondation nationale des études politiques, donc relations internationales, deux orientations différentes, qu'on groupe, on continue de regrouper. Donc, je reprends, pour chacune des aires et pour les problèmes majeurs qui se posent sur le plan de relations internationales, des ensembles de type confédéral qu'on souhaite créer, dont chacun serait composé d'unités de recherche, documentation et formation. Ça me semble intéressant de voir que le terme fondation réapparaît, spécialisée, émanant des différentes institutions impliquées et sont citées le CNRS, l'école pratique, sans spécifier quelle école pratique, quelle section, FNSCO, école polytechnique, acteur montant, y compris en matière de sciences sociales, de l'homme, ce que vous voudrez, université, NSH, et d'une unité centrale commune de caractère confédératif placée sous l'autorité de la NSH. Ces aspirations en cours d'année rencontrent des échos dans les rapports d'activité des centres de documentation proprement dits. Ainsi, par exemple, ILMAS, parle en 1973 de véritable symbiose en ce qui concerne la Chine entre le centre de documentation de la 6e section et le CERI, ce qui reflète certes des coopérations, certaines de longue date, entre des chercheurs, mais constitue aussi une manière de justifier l'appui matériel reçu de la part de la NSH. Il faut préciser en effet qu'indépendamment de la NSH, des liens entre la 6e section et l'IOP Paris et même le CERI, se noue très tôt, dès les années 50, ne serait-ce qu'à travers les circulations interinstitutionnelles des titulaires des cours portant sur différentes aires étrangères et qui vont perdurer, pour certaines, pendant les décennies suivantes. Elles sont notamment illustrées par Basil Kerblay, spécialiste de l'ère russe et soviétique, par Stuart Stein, Vadim Elisev, Étienne Balache, Jean Chessinon, spécialiste du monde chinois, Balin Guillet, Brunswick, spécialiste de l'Afrique, ou encore, au tout début plutôt, Jean Gottman, spécialiste des États-Unis, qui enseigne dans les deux institutions. Et évidemment, on ne peut pas rappeler que Brodel lui-même enseigne pendant plusieurs années à l'IOP de Paris, en cours sur l'Amérique latine. Karel Dankos est, quant à elle, en partie formée dans le groupe de Belize. En 1956 déjà, lorsqu'il est en train de discuter avec la Fondation Ford du grant octroyé par celle-ci, Durosel reconnaît les faiblesses de l'IOP et de la FNSP en matière d'études sur la Russie soviétique et la Chine, ce qui justifierait selon lui d'encourager la poursuite d'une collaboration avec la 6e section. La MSH apparaît donc comme un catalyseur de ces dynamiques, un facilitateur des liens et un incitateur à la coordination, aussi bien de manière générale et en matière d'études sur les aires culturelles. Les infrastructures et les moyens matériels fournis jouent un rôle non négligeable en ce sens. Il me semble cependant qu'un certain discours rétrospectif aura tendance à amplifier le rôle fondateur de ce domaine dans la création de la MSH et que le rôle croissant qu'il joue de manière évidente, effective dans son sens, à partir du milieu des années 70 et de la décennie 80, encouragera également une certaine lecture, relecture de la période des fondations proprement dite. En outre, ce sont des facettes et des enjeux très spécifiques qui permettent l'intersection de ces deux projets institutionnels et intellectuels. La documentation avant tout, puis l'internationalisation, à commencer par celle des activités de documentation elles-mêmes, à travers la mise en place des circuits d'échange avec les aires ou les pays concernés, avec des régions limitrophes lorsque les aires proprement dites sont difficilement accessibles, avec d'autres institutions européennes et surtout États-Unis. À partir du milieu des années 70 et pendant les années 80, l'internationalisation prendra cette fois la forme d'une série de programmes de coopération internationale d'envergure avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, programmes qui ne peuvent pas tous être documentés sur un plan archivistique. Il s'agit des programmes Inde et Asie du Sud, programmes de coopération internationale avec la Chine, programmes franco-allemands, franco-brésiliens, programmes Europe, programmes de coopération en sciences sociales avec l'Europe de l'Est, qui revient en Europe, et programmes Russie, qui engendre tous les deux la chute des régimes communistes. Enfin, un autre constat, et un effet constant de cette intersection entre ère culturelle et la MSH, me semble être l'affirmation, peut-être encore plus net que ce n'était le cas à la 6e section, même si c'est difficile d'arbitrer, et cela dès la fin des années 50, des attentes pratiques et du caractère appliqué qu'on a commencé à évoquer ce matin, des savoirs aréaux et plus généralement des sciences sociales. En cela, et en tant qu'objet frontière reliant des acteurs venant des mondes sociaux différents, la MSH pourrait aussi être investiguée au titre d'un des vecteurs de légitimation d'un discours hétéronome sur ces domaines de savoir. Merci.
Merci infiniment. On t'a mis du pile.